Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur Play. Derrière ce bouton, il y a Focus Store, le podcast du magazine Focus Vif, la revue culturelle des deux semaines écoulées sous la forme d'un débat, d'une papote entre la crème du caviar, du râpé de truffes noires des journalistes de notre belle et noble publication. Aujourd'hui, autour de la table, il y a notre vénéré rédacteur en chef, Laurent Raphaël. Bonjour Laurent.
Bonjour Myriam.
Notre adulé rockstar, Philippe Cornet.
Bonjour Myriam.
Et notre admiré spécialiste des mauvais genres littéraires, Olivier Van Varenberg. Pour ce dernier numéro, et oui déjà de 2013, on a décidé de vous parler, chacun depuis sa petite expertise et son petit amateurisme éclairé, d'un film, What's Amazing You, d'un disque Cupid Deluxe de Blood Orange, d'une série, Under the Dome, et d'un roman, Vilaine Fille. Focus Store, saison 2, épisode 5, clap de début, c'est parti.
Sad when you're not here. It's nice for him to have someone around to cheer him up.
I thought that Maisie's mother was supposed to be doing pickup today.
She sent me to get her daughter.
Who are you?
Sort of like Maisie's stepfather. The scar is a
fleck on my poor. Le film du jour, c'est donc What Maisie Knew, ce que c'est Maisie, donc ce que savait Maisie. Maisie étant une toute petite fille dont les parents se séparent. Donc voilà le point de départ d'un film au sujet a priori anodin, d'une histoire vue, revue 100 fois, qui traite sa thématique avec quand même pas mal de finesse. Sa thématique, c'est donc comment les histoires d'adultes qui peuvent parfois se montrer quand même très infantiles, peuvent se répercuter sur la vie d'un enfant. C'est d'ailleurs filmé à hauteur d'enfant. Ça aurait pu être un mélo plein de pathos et de larmes. Et c'est plutôt une chronique douce amère des turpitudes de la vie de couple et de la vie de famille. Quelque chose d'assez ouateux, peut-être même d'un peu sucré. Dans le rôle de la mère, Julianne Moore, dans celui du père Steve Coogan, impeccable. Et dans celui de la fille, une certaine Onata April, un petit rôle tout délicat auquel on s'attache. Alors au final, la seule chose qui n'est absolument pas crédible et totalement à côté de la plaque dans cette histoire, selon moi, c'est la carrière de rockstar du personnage de Julianne Moore qui chante comme une casserole dans un style plutôt ringard. Laurent, qu'est-ce que
avec
tu en
as? Avec les Kills.
Oui, avec les Kills, c'est ça qui est très étonnant. Oui, mais les Kills, pourtant, j'aime plutôt bien, mais là, la greffe n'a pas tellement.
Oui,
heureusement, enfin, la dimension rock est quand même assez secondaire,
oui,
et n'écrase pas tout. Mais pour revenir au film proprement dit, ben, moi, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est un film, comme tu disais, doux amer, qui mélange à la fois la douleur de cet enfant ballotté entre des parents complètement irresponsables, qui sont pris empêtrés dans leur rivalité, dans leur carrière, et en même temps ce côté léger, parce que c'est vu à travers le regard de cette petite fille qui arrive à rebondir et à trouver des bouées de secours dans la personne de ses beaux-parents, ses deux jeunes beaux-parents,
ouais,
qui prennent un peu
eux.
Le relais, voilà, avec qui elle s'amuse, où elle sent de l'amour, une tendresse qui vient compenser les failles des parents. Et donc, je trouve que c'est très subtil, parce que ça pourrait être très sentimentaliste, vraiment, on pourrait verser des larmes à toutes les cinq minutes, mais ils arrivent à en faire quelque chose de très réaliste aussi. Je trouve, voilà, c'est un film qu'il faudrait montrer à tous les parents qui sont en instance de divorce.
À tous les futurs parents.
Et à tous les futurs parents, exactement, dans les deux cas, parce que...
Ça va faire des recettes, ça.
Oui, mais ici, je veux dire, on le voit bien, les parents sont complètement à côté de la plaque, ils ont abandonné cet enfant qui est ballotté, ils la laissent... Enfin, c'est une scène assez touchante, Julianne Moore qui est dans une tournée rock, toujours pressée par le temps, qui dépose en taxi sa fille devant un restaurant, en pensant que son nouveau mari est à l'intérieur et bosse dans le bar, et il n'y a personne, donc cette petite fille se retrouve toute seule en pleine nuit au milieu de New York. Voilà, enfin, c'est tout ça qui rend le film vraiment tendre, et je trouve que c'est un petit bonbon comme ça, à la fois doux amer, parce qu'il lézarde un peu les idéaux, ça c'est le côté douloureux, mais en même temps il propose des alternatives dans le fait que, ben, justement, on se déconnecte, mais on se reconnecte à d'autres aussi. Donc c'est un petit peu le reflet de ce qui se passe souvent aujourd'hui dans les familles.
Et je crois que tout le monde peut aussi s'y retrouver, même ceux qui n'ont pas d'enfants, ce qui est mon cas. À partir du moment où on a fait un jour l'expérience de la rupture, je trouve que c'est un film qui peut rassembler absolument tous les publics.
Tout à fait. Avec la fin d'une histoire qui est le début d'une autre. Enfin, voilà, il y a plein d'interactions et ça joue très très bien sur ce piano-là, quoi, le piano des émotions.
Philippe.
Oui, alors j'étais assez impressionné par la prestation de la petite fille dans le film, qui semble être le personnage... malgré son âge, je sais pas, elle a 7-8 ans, je pense, dans le film.
Je pense qu'elle avait 6 ans quand elle a joué ce rôle.
6 ans, d'accord. Mais elle joue quelqu'un de 7-8 ans.
De 7 ans. Ouais.
D'accord, de 7 ans. Et je trouve qu'elle est, elle a un rôle comme ça très temporisateur. Elle semble prendre les nouvelles quand même relativement dramatiques qui lui tombent sur la tête au fur et à mesure avec beaucoup de modération, de patience, de discipline. Et donc ça dédramatise aussi le contexte un peu hystérique de cette séparation où la mère hurle, le père claque les portes, etc. Et donc elle contribue à rééquilibrer le film, en fait, la narration du film, à ne pas le porter vers une espèce de comédie hystérique, ce qui aurait pu être facilement le cas. Le seul moment, effectivement, où on sent qu'elle est quand même un peu dépassée par la situation, où elle est un peu décontenancée, désespérée, c'est le moment où, effectivement, sa mère la dépose dans un restaurant où son beau-père, entre guillemets, n'y est pas. Et donc, elle se retrouve à passer la nuit chez des inconnus, mais littéralement, chez des gens qu'elle ne connaît pas, dans une petite chambre un peu tristounette, quoi.
Combien tu lui mettrais sur 10?
Ah, je pense que je lui mettrais 8 sur 10.
Ah ouais, carrément.
Carrément.
Il y avait du monde dans ta salle, toi?
8 moins 5, 3 personnes.
D'accord.
Faut rappeler aussi que le film est une adaptation d'un roman d'Henry James, la fin du 19e. Évidemment, remis très largement au goût du jour, mais enfin voilà, comme quoi les histoires, les crises de couple et avec les effets secondaires sur les enfants ne datent pas d'hier.
Ils sont intemporels. Bon, ben voilà, on va se plier au petit jeu des cotations. Hein. Moi, je lui mets 7 parce que c'est un petit film quand même. C'est un bon petit film.
Je vais jusqu'à 8 parce que c'est un petit film, mais avec de grandes idées et une réalisation que je trouve, comme disait Philippe, à travers le regard de cette petite fille qui, l'air de rien, amène vraiment le porte vers le haut. Quoi.
Je donnerais 8 aussi.
Oui. Oh, vous êtes gentil. Mais pourtant, ce film n'est distribué que dans 2 salles à Bruxelles.
Bon, alors 4.
Non, mais bon, c'était un peu dommage. Enfin, voilà, ça montre que ça n'a pas un potentiel
comme ça,
de blockbuster.
Ça étendra peut-être un peu son potentiel.
Voilà, on va faire ça. Je vous signale, parce que je ne vous l'avais pas encore dit, que le film est réalisé par David Siegel et Scott McGehry, connus notamment pour The Deep End, un film avec Tilda Swinton.
Aussi, ouais.
Voilà. Et Jean-François Pleugas, notre grand Manitou des pages ciné, a aimé. Et dans notre magazine, il parle d'un film sensible et lumineux à l'abri des clichés. Que j'ai mis à l'agenda aujourd'hui, c'est l'album Cupid Deluxe de Blood Orange. Blood Orange, c'est le nom de scène de Dave Hines, ex Lightspeed Champion notamment, qui a bossé avec Florence and the Machine et les Chemical Brothers, entre autres choses. C'est un Texan anglais d'adoption, étrange, au style qui pique quand même un petit peu aux yeux, mais qui fait du bien au cœur et au corps, parce que ce qu'il propose, c'est un revival R&B 80s, voire 90s, avec des chansons chromées qui dégoulinent de miel, qui dégoulinent de sucre comme un gros loukoum, des morceaux à écouter sous la couette pendant, je sais pas moi, une sieste crapuleuse, la playlist idéale d'un gros bain mousse, je vous le conseille. Il y a un peu de Michael Jackson, un peu de Stevie Wonder en lui. C'est un album, à mon avis, qu'on déteste adorer ou qu'on adore détester, je sais pas trop. J'imagine que c'est pas à mettre entre toutes les paires d'oreilles et qu'il y a quand même peu de chances que les fans de Cold Wave décharnés et anémiques tombent sous le charme de ce Cupid de luxe. Alors moi, je suis 100% conquise par les références qu'il convoque. C'est une vraie Madeleine de Proust. Et c'est même, je vais vous dire, mon disque préféré de l'année 2013. Eh oui, oufti. Alors Philippe, toi qui bosses pour les pages musique, est-ce que tu as fait un rejet de ce disque, comme beaucoup? Est-ce que tu l'as aimé comme moi?
Je dirais que je suis un peu à la frontière.
Ah, chère, donc c'est possible.
Myriam, je suis un peu à la frontière. C'est-à-dire que c'est effectivement un disque extrêmement plaisant, extrêmement agréable à entendre, peut-être plus qu'à écouter. Qui a effectivement toutes les couleurs dont tu parles, c'est-à-dire les années 80 et un peu plus. Ce qui m'a gêné, si tu veux, après ce plaisir immédiat d'une sieste assistée ou non, c'est le côté hybride de la chose. Je trouve que, au-delà des références que tu cites, bon, Stevie Wonder, moi je pensais aussi aux Commodores, c'est avec une grosse influence Michael Jackson, qui cite d'ailleurs, il parle de Moonwalk
et Billy Ocean.
Billy Ocean, oui, ça dans un, oui, c'est ça. Michael Jackson dans un mauvais jour. Et donc finalement, il y a un morceau par exemple qui s'appelle comment ? Qui est le sixième morceau sur l'album et qui s'appelle Chosen, où ça commence par une espèce de voix d'aéroport. On a l'impression que c'est tombé d'un mauvais disque du Buddha Bar des années 90-2000. Et puis ça s'enchaîne à une sorte de chorale gospel hyper euphorisante. Et donc à la fin, on se demande un peu qui on a entendu, qui on a écouté et où il veut aller ce garçon. Voilà, c'était un peu mon sentiment mitigé, donc plaisir mais hybride.
D'accord, Olivier. Bon, je suis un peu déçu par ce que tu viens de dire, mais bon.
Non, voilà. Donc, j'ai pas l'impression qu'on peut rejeter ça, parce que le fait c'est agréable à écouter, c'est des chansons qui n'agressent pas l'oreille, qui sont tout à fait agréables à entendre. Mais...
c'est déjà gentil de leur part, oui.
Mais vraiment, on est de nouveau, et on en avait parlé ici autour de cette table quand c'était le moment Daft Punk, c'est de nouveau, et je vais citer notre maître à penser à tous, Laurent Aubry, qui parlait du zeitgeist musical du moment. C'est impressionnant. Donc c'est vraiment, on est revenu à un moment musical où on est obnubilé par le passé. Jusqu'à la caricature, et ici, on est effectivement dans ce son des années 80. Vraiment, moi, quand je l'entendais, je voyais Billy Ocean sur son cheval, le long de la mer, avec des congas sur le côté, avec des synthés, une sorte de soft pop. Enfin, c'est pas désagréable, mais c'est vraiment, j'allais dire, presque rétrograde, presque réactionnaire, presque contre-révolutionnaire de faire ça en 2013, je trouve.
Mais tu trouves pas qu'il le fait avec une forme de détachement et d'humour? Moi, je trouve ce disque assez drôle, en fait.
Il y a un travail du son qui date d'aujourd'hui. C'est peut-être plus dans l'époque, dans ce côté un peu presque dépressif, presque un peu revenu.
Oui, parce que tu parlais de sucré, mais je trouve qu'il y a des morceaux qui sont quand même un peu crépusculaires, un peu urbains, qui sont...
Oui, mais sa voix remet toujours une couche de sucre sur tout ce qu'il fait.
Oui, bien qu'elle ne soit pas présente sur tous les morceaux. Il y a des morceaux où il laisse vraiment la voix au chapitre à d'autres, plus rap, etc. Donc,
Même son rap est très marqué. C'est vraiment le comme Nas, c'est du son, comme on en a entendu les 80, c'est New York State of Mind, c'est exactement
ça. Oui, c'est Jay-Z, c'est ce côté... Ouais.
Et donc, on est vraiment en permanence retourné vers ce qui s'est passé et ils sont nostalgiques d'une période qu'ils n'ont pas connue. C'est ça qui m'interpelle, c'est que ce type a 27 ans.
Mais c'est assez courant, ça, tu penses pas?
C'est ça, est-ce que c'est de la nostalgie ou est-ce que c'est pas tout simplement...
On fantasme qu'on n'a pas connu, donc on en fait plus que ce qu'elle n'était.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, pour réduire un peu les choses malgré tout, c'est que...
Parce que le micro de Philippe est en train de tomber, donc il est voûté comme un petit vieux.
Oui, donc, attends, je vais essayer. Bon, bref, je vais me mettre comme ça, tu couperas ça. Est-ce que c'est ça pas le fantasme de revenir à une musique des années 80 comme la musique des années 60 avait été d'ailleurs, c'est-à-dire un peu extatique, un peu heureuse dans une période où il semble l'économie...
Moi j'ai un peu... j'ai une autre hypothèse, tout simplement, est-ce que c'est pas l'impossibilité de se renouveler, de trouver autre chose? J'ai l'impression, moi, ici, d'une grande marmite où il achetait un peu tout ce qu'il y avait dans le frigo, c'est-à-dire un peu de folk même, un peu du R&B, de la pop soyeuse, enfin, il a tout balancé dedans. Et du coup, comme Philippe disait, il y a un peu sentiment hétéroclite, un assemblage un peu disparate d'essais, erreurs, d'instantanés, comme ça, mais
on ne sait pas qui
pas
est ce type
de très cohérent.
Disque, on ne sait pas qui est ce type, enfin, je veux dire, il n'a pas d'identité précise, affirmée.
Mais je sais que ça va sembler étrange que je vous dise ça, étant donné qu'on est en train d'essayer d'élever le débat de la culture, mais est-ce qu'il faut vraiment intellectualiser ce disque et pas le prendre simplement comme une grosse praline à la limite de l'écœurement.
Si c'est une grosse praline, il y a la moitié de la praline que je jette à la poubelle. Oui, en gros, j'ai 5 morceaux que je sauve.
Je vais rechercher des disques des années 80. Je vais me recouter un bon Phil Collins qui a les mêmes intros.
Ouais, parce que le sax ici, il est plutôt agaçant.
Autant écouter cela. C'est ça qui moi m'empêche d'avoir du plaisir pur à l'écouter. Parce que comme tu dis, il n'y a rien de désagréable à l'oreille. C'est plutôt bien foutu.
Non, mais ce qui est peut-être marrant finalement, c'est que quand tu vois la pochette, qui est une pochette assez année 2010. Un peu, enfin j'en sais rien, postmoderne, d'une femme en bikini avec
avec un masque.
Ça pourrait aussi être les années 50 d'ailleurs, mais enfin bon. Et alors quelques arrangements, quelques interventions un peu plus hip-hop, on pourrait aussi être, c'est-à-dire c'est aussi un disque de 2010, donc c'est les gens, je pense, qui n'ont pas les références nombreuses que nous possédons, vont trouver ça, si tu veux, relativement moderne, je pense. Je pense qu'ils ne feront pas du tout...
Ouais.
Je parle des gens peut-être de 15-20 ans.
Hein, ouais. Non, peu, je ne sais pas.
Qui ne connaissent pas Michael Jackson.
C'est en 2013 un disque un peu neuf, quoi, qui apporte un son un peu différent, qui n'est pas retourné sur le passé, ne va pas fouiller ce qu'on a fait en 80, en 83.
C'est une bonne question.
Mais est-ce bien l'essentiel, Olivier?
Bah, pour faire avancer le schmilblick un peu, je crois qu'on a aimé, en tant qu'adolescent, qu'on aimait de la musique, c'était des musiques aussi qui renouvelaient un peu le genre, je pense. Que le rock a inventé quelque chose, que le rap a inventé quelque chose, que l'électro a inventé quelque chose. Ici, c'est des artistes qui remixent encore et encore des choses sans avoir...
Oui, mais qui remixent quand même des choses qui, à l'époque, étaient un petit peu hermétiques les unes aux autres. Oui, tu vois, du R&B, les hipsters, ici, c'est un peu ça, c'est du R&B pour hipsters. Mm-hmm. Le R&B, folk, pop et tout, ça se mélangeait pas trop, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu... C'est ça, la nouveauté, c'est la manière dont on assemble les ingrédients. Alors qu'avant, les cuisinaient séparément. Ça, c'est une forme de nouveauté. Alors, elle est un peu limitée. Et en effet, on va peut-être pas aller très loin. Il va falloir vite passer à autre chose. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu ça. C'est le côté un peu... Hein, c'est la cuisine, c'est le wok musical, quoi. On jette tout dedans.
Mais tu sais quoi, chef? Je trouve qu'il faudrait que Focus mette sur pied un institut de recherche et de développement musical.
Mais en fait...
Et devienne une université.
Myriam, il existe, mais ces recherches sont pour l'instant secrètes.
Ah bon, alors, oui, alors moi je lui mets 10. Bah oui, je sais, c'est complètement exagéré, mais j'ai perdu tout sens critique. Oui, j'ai perdu tout sens critique. Je suis complètement séduite. Voilà, c'est 10. Je sais, c'est pas très journalistique, mais c'est comme
ça. Il va falloir tempérer. Donc,
Philippe,
moi je mettrais 6.
D'accord,
moi je mets 6.
Oui, pareil, 6 aussi.
Voilà.
Je voulais quand même souligner, oui, le bonhomme a produit également l'album de Solange Knowles,
oui,
qui est dans cette même veine, donc la sœur, la petite sœur de Beyoncé. Et en effet, il y a deux morceaux où on a même l'impression qu'elle chante. Et c'est marrant parce qu'on parlait de l'absence de continuité dans l'album. Mais par contre, là, ça pourrait être tout à fait une chanson de la Solange, et qui est dans cette même veine aussi de... ce côté R&B, mais qui gravite dans des milieux un peu plus pointus, plus élitistes, où on rabat un peu les cartes, quoi.
Bon, voilà.
Est-ce que tu as compris ça?
Non, rien. Alors, notre très estimé confrère Laurent Houbrex, hein, a parlé dans nos pages d'un disque de R&B au pouvoir de séduction trouble, une sorte de spleen amoureux passé au filtre Instagram. Ah,
c'est bon. Voilà.
Que dire après
tout
ça, évidemment
dit.
Qui prend des drogues.
I can't tell you if what happened is an act of terror or an act of God.
Where the hell did it come from?
No idea.
You have people trapped in here.
We're on our own.
Under the Dome, c'est le nom de la série de la semaine. C'est américain, c'est très américain, et ça a été développé d'après le roman du même nom de Stephen King. C'est un énorme succès aux États-Unis sur la chaîne CBS, et ça marche tellement bien qu'une deuxième saison est déjà prévue pour cet été. Et c'est vrai, je trouve que son pitch est très alléchant. Alors, un beau jour, sans qu'on sache pourquoi, un gigantesque dôme transparent se pose comme une cloche sur une petite ville du Maine où il ne se passe jamais rien. Chester's Mill est donc coupé du monde et de toutes les communications modernes. Des avions, des camions, des voitures se fracassent sur ses parois. Des hommes et des animaux sont coupés en deux. C'est la panique, puis la survie et enfin la réorganisation. C'est l'occasion pour certains de fuir leur passé, pour d'autres d'assurer leur avenir. Voilà en gros ce que raconte ce qui fait... un petit peu penser à Lost sur Continent, sauf que c'est infiniment moins bien que Lost, moins bien et même carrément lamentable hein, par moments, avec des personnages clichés, des intrigues poussives, des acteurs charismatiques comme des canaux pneumatiques, bref, de la bonne grosse daube comme la télé américaine nous sert depuis le début de la saison, c'est assez désespérant. Olivier, est-ce que tu l'as regardé cette série?
Je l'ai regardé, j'ai tout regardé. Non. Je suis très fier de moi. Je n'ai pas été au cinéma, mais je suis resté avachi dans mon fauteuil.
Quel courage!
13 épisodes, mesdames et messieurs.
Quand même, ouais.
Bah écoute, je rejoins un peu ton avis. Donc, forcément, s'il faut citer des références pour situer un peu l'univers dans lequel on se retrouve, évidemment, on pense à Lost.
Ouais.
Pour ce côté mystérieux qui va avancer petit à petit. Et là-bas, il y avait le nombre de codes, les chiffres qui revenaient de manière récurrente. Ici, c'est un petit papillon qui va devenir un monarque. Voilà, il y a des petites choses comme ça amusantes. Ça m'a aussi fait penser un petit peu à la construction à Flash Forward. Grande saison que j'avais beaucoup aimée, qui n'a jamais connu de deuxième.
Ah ouais, tu as aimé Flash Forward. Tu es donc la personne qui a aimé Flash Forward.
Eh bien voilà, c'était moi. Donc ici, effectivement, c'est pas mauvais, mais c'est décevant. Disons qu'on entendrait plus. Donc c'est tiré d'un bouquin de Stephen King, un bouquin assez riche, 2000 pages de volume, qui profite de ce prétexte, c'est une bonne idée, mais c'est aussi une idée assez facile. Pouf, j'ai mis une cloche au-dessus d'un village, d'une ville américaine, que se passe-t-il?
Oui.
Et le bouquin de King servait à ça, de regarder comment la communauté...
Les Simpsons, voilà. Ça déjà fait.
Oui,
exactement, c'est une idée qui est déjà revenue. Donc, le bouquin de King était plus proche de l'humain. Ça jouait vraiment sur comment la communauté se transforme. Et sans dévoiler, puisque c'est pas le cas ici dans la série, en gros, tout le monde meurt et tout finit dans une tempête de feu. Ici, on est tout à fait... C'est autre chose. Alors, c'est décevant parce qu'on espérait que ce soit très bien, puisqu'il y a King à l'écriture et Steven Spielberg à la production. Ouais. On s'est dit, waouh, ça va déchirer. D'où le succès, j'imagine, aussi, par le saint bouche à oreille ou le nom des auteurs. Et en fait, c'est comme tu dis, c'est très décevant au niveau de la structure.
Le casting.
Au niveau du casting qui fonctionne absolument pas. Il y a des intrigues secondaires qui ne servent absolument pas les personnages. Le personnage de la shérif, par exemple, mais d'épisode en épisode, elle devient de plus en plus bête. Elle se gourre chaque fois de
elle respire par la bouche.
C'est vraiment affreux. Le jeune psychopathe qui enferme sa copine, qui kidnappe sa copine, ça se passe au début, donc on ne spoil rien. C'est ridicule, ça n'a rien à faire là. Personnage de femme caïd de la pègre qui s'installe, qui reste là deux épisodes, on se demande ce qu'elle vient y faire. Enfin voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout dans cette promesse qui était jolie.
Il ne faut pas être allergique aux invraisemblances.
Hein. Oh, c'est terrible ici.
Oui. Surtout donc, que ça se prend très au sérieux. Enfin, c'est ça qui est un peu difficile. C'est que ça se prend au sérieux et qu'en même temps, ça se veut vraisemblant, mais ça ne l'est pas du tout.
Mmh. Bah, c'est difficile d'être vraisemblant avec l'idée qu'il y a une cloche qui vient se mettre au-dessus de nous, qui coupe une vache en deux. Et, bon, déjà, il faut accepter beaucoup de choses. Mais après, voilà, c'est vraiment un problème de structure, j'ai l'impression, de réalisation, de finesse d'écriture. Je ne sais pas très bien comment il faut le situer. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Voilà, on accroche difficilement et le casting,
premier
encore
épisode
une fois, est mal foutu,
était, bon, comme souvent, assez prometteur dans sa dimension catastrophe avec cette vache qui se coupe en deux, etc. Il y avait quelque chose d'assez prenant, mais en effet, je trouve très vite, on tombe dans la caricature avec ces intrigues de plus en plus tirées par les cheveux. Là, ils ont re-signé pour une deuxième saison, on parle de 4 saisons au final. Je me demande ce qu'ils vont pouvoir inventer sous cette cloche pour nous resservir et réchauffer chaque fois la soupe. Ça m'a fait un peu penser à... une espèce de, je sais pas si vous connaissez ce jeu de simulation, SimCity.
Oui.
Mais il y a un petit côté comme ça ici, je trouve, où on va modifier un peu les curseurs des différents pour voir comment la ville, la petite ville est gérée, enfin, comment elle évolue en bien ou en mal. Mais très vite, on va tourner en rond.
Comme des rats de laboratoire dans une boîte à chaussures.
Voilà. Exactement, c'est ça le principe.
Qu'on regarde évoluer.
C'est ce que fait King dans son idée de base, c'est ça.
C'est ça. Mais ici, ils n'exploitent pas, ils vont jamais jusqu'au fond de l'idée, par exemple, de la pénurie qui va forcément ou pas s'organiser, de voir comme les impacts, les effets secondaires jusqu'au bout. On aborde, on touche à peine le problème et puis après, on le laisse tomber pour autre chose. Soi-disant, sans doute pour relancer l'intérêt, pour pas fatiguer le téléspectateur. Mais c'est dommage, quoi. Ils vont jamais plus loin que la surface, essayer d'aller un petit peu creuser la psychologie des personnages dans des cas extrêmes.
Eh oui, ça aurait dû être scandinave ou peut-être anglais.
Ouais,
cette série.
Oui, ou ma mère. Enfin, dans Lost, moi j'ai relativement aimé cette série jusqu'à la dernière saison, comme tout le monde. Ça fonctionnait, il y avait une écriture, il y avait peut-être une surprise.
Il y avait des beaux personnages aussi. Hein,
il y avait un bon casting ici, effectivement. Il y a des acteurs auxquels on passe tout à fait à travers. Ils ne sont pas du tout convaincants. C'est comme tu dis, ils ne poussent jamais l'intrigue là où ils pourraient aller. Il y a des choses intéressantes sur ce principe de rat de laboratoire, sur le côté mauvais des gens, sur le personnage de Big Jim Rennie qui devient le grand méchant qui est le. Qu'on a connu dans Breaking Bad, pour ceux qui connaissent la série, dans laquelle il était excellent. Ici, il est, à contrario, il a un rôle plus fort et il est beaucoup plus transparent, quoi.
Voilà, moi, je me demande si on est... Alors, j'ai regardé 3 épisodes et demi. J'ai eu un peu l'impression de perdre mon temps.
Pardon.
D'autant qu'il y a quand même un truc qu'il faut dire. Enfin, à mon sens, c'est... Où est-ce qu'on regarde ces épisodes? Alors, ou bien vous avez des copies qui viennent directement des États-Unis.
Donc, basiquement, c'est diffusé sur BTV, je crois.
Voilà.
Oui. D'accord.
Ça passe sur
BTV, j'ai
en
pas
France.
BTV.
Il y aura une intégrale en janvier, d'ailleurs. Si tu veux tout revoir en une fois, il y a une intégrale en janvier.
Oui, je pense pas que je veux tout revoir en une fois, mais même en deux fois.
Les téléchargements que je ne peux pas citer.
Non, voilà. Ce que je veux dire, c'est pas bien. Voilà, c'est ça. Moi, je regarde ça en streaming. C'est légal, le streaming, paraît-il.
Oh, il y a un flou artistique.
Voilà, il y a un flou artistique. Voilà, dans une qualité de son et d'image quand même relativement approximative. Et ça, c'est assez agaçant, quoi. Alors quand la série en elle-même n'est pas formidable, ce qui est le cas ici, ça vire vite à l'exercice pénible. Et donc la question que je me posais, c'est est-ce qu'on n'a pas déjà dépassé le stade de la renaissance
des séries
au sens historique de l'histoire.
Ah, Myriam se plaint beaucoup que l'année était catastrophique pour les
séries.
Oui,
voilà, c'est la pire.
Et pourquoi? Alors la seconde question, c'est pourquoi? Est-ce que ça veut dire que la télé américaine essaie de creuser un filon sans y investir suffisamment de moyens, même avec un casting comme celui-là, puisqu'on a Spielberg et Stephen King?
Donc
c'est vrai que les acteurs sont particulièrement, relativement indigents et les dialogues quand même très décevants. Mmh.
Ah oui, c'est des choses qu'on a entendues mille fois, c'est terrible.
C'est assez pièce de théâtre belge 1967. Bon, allez, j'exagère un peu.
Bon, c'est tout ce que tu as à dire sur cette série? Bon, d'accord. Bon, alors moi, je lui mets 3 sur 10.
4.
Ah, je vais mettre 5 parce que ça reste quand même mieux que toutes les séries style expert qui pullulent sur la télé, qui sont bien pires.
Je suis même pas certaine, figure-toi.
Oh, non, allez, je mets quand même 5.
5 aussi, quand tu as une migraine, ça passe.
5 pour la vache coupée en deux.
Oui,
belle vache. À chaque fois, il faut bien préciser dans le rappel de l'épisode.
C'était le stud qu'ils ont trouvé, ils te le refourguent à chaque
Exactement.
Épisode.
Enfin, on va terminer cette revue des gros morceaux culturels de ces derniers jours avec un bouquin « Vilaine fille » de Megan Abbott, à propos duquel je dois dire que je vous n'ai pas tout lu. Voilà. Pas uniquement parce que le temps me manquait, mais aussi parce que l'envie n'était franchement pas là. C'est toi, Laurent, qui nous l'a mis au menu. Tu vas nous l'expliquer pourquoi tout de suite. Je vous brosse d'abord très brièvement le tableau. Une école secondaire américaine, des pom-pom girls, une coach crainte, adorée et détestée, des régimes minceurs, deux copines, un amant militaire et un drame. Alors, a priori, rien de vraiment fondamentalement nouveau sous le soleil des teen comédies américaines, sauf qu'ici, le trait est quand même bien noir et bien malsain. Le bouquin n'est pas totalement sans intérêt, mais j'ai vraiment du mal avec son style, moi. Peut-être sa traduction, je ne sais pas, mais j'avais l'impression de lire un vieux club des babysitters avec juste un petit twist de perversité en plus. Comme contrairement aux filles du roman, je ne suis pas maso, j'ai laissé tomber. Laurent, dis-nous pourquoi tu as choisi ce livre.
Alors, je l'ai choisi au départ sur foi d'une critique qui était une des rares critiques qu'on a pu lire sur ce livre, qui était très positive et qui parlait de ces milieux adolescents et du côté pervers de l'adolescent. Je trouvais ça sympa, ça rappelle Virgin Suicide, etc. Donc je me dis, sur foi de cette critique, d'autant qu'il y en avait très peu, d'ailleurs il y en a toujours très peu qui sont sortis sur le bouquin, je me suis dit, il y a peut-être une piste à explorer. Et c'est vrai qu'au final, j'ai un peu un sentiment de gâchis. C'est-à-dire, je continue à croire qu'en effet, le sujet est très bon. L'univers des pom-pom girls qu'on ne connaît pas très bien chez nous, puisque ça n'a rien à voir avec les majorettes, mais c'est une espèce de troupe d'élite dans les collèges américains. Voilà, et donc, en effet, je trouve que voilà, c'est un terreau propice à l'étude de l'adolescence, qui est évidemment un sujet de fiction intéressant. Mais je ne sais pas en effet si c'est la traduction ou si c'est déjà l'auteur qui était pressé par le temps et poussé par son éditeur, mais il y a une sensation de gâchis, d'avoir bâclé un peu le travail. Et du coup, on perd toutes les qualités que pourrait avoir ce livre, parce qu'on sent comme ça à certains moments qu'elle touche à quelque chose quand elle parle du corps. Il y a une dimension qui est vraiment intéressante sur la psychologie, elle effleure la psychologie des personnages avec cette perversité que je trouve, on sent qu'il y a quelque chose, mais ça retombe très vite parce que, ou bien il manque des mots carrément, enfin des articles, c'est mal torché.
Il y a des redites aussi parfois.
Voilà, il y a des redites et on sent que le style a été bâclé, il a été un peu enfermé, formaté dans une espèce de style très rapide comme on pourrait l'apprendre dans des écoles d'écriture, mais pas très relevé. Et donc, J'aime bien ça, la dimension un peu Spring Breakers qu'on peut retrouver, le côté Fight Club et tout ça qui est là, qui est présent, mais qui n'est pas exploité comme il aurait pu l'être et qu'il aurait dû l'être pour en faire vraiment un roman intéressant. Et je pense que là aussi, Olivier pourra peut-être nous éclairer là-dessus, c'est que elle balance entre deux univers. Je trouve qu'au départ, la première partie privilégie davantage la psychologie des personnages et est plus intéressante. Quand elle doit commencer à intégrer les recettes du polar, là on sent qu'elle part un peu en vrille.
Ça patine un peu.
Faut vite mettre les éléments pour conclure. Et je trouve que là, c'est n'importe quoi.
Olivier, éclaire-nous.
C'est étonnant parce que je pensais, à contrario, que vous alliez plutôt bien aimer. Et en fait, moi, je n'ai pas détesté, contrairement à ce que vous pourriez penser, mais je l'ai pris d'un autre point de vue. En fait, j'avais lu un précédent roman de Megan Abbott il y a 2 ans, je pense, qui s'appelait Adieu Gloria, qu'on avait chroniqué dans le magazine, que je n'avais pas aimé parce qu'elle jouait beaucoup sur des clichés. En gros, c'était l'histoire d'un caïd de la pègre et de son suivant d'un comptable et un rapport de soumission, de domination, de maître, de Pygmalion, avec la particularité que ces personnages, d'habituellement dans les clichés masculins, étaient féminins. Et ici, je retrouve dans ce bouquin, indépendamment du côté cheerleader plus contemporain, exactement ce même rapport. Une narration à la première personne et 2 personnages féminins dans un roman qui est noir, qui se veut roman noir dans une certaine tradition, mais qui efface la figure masculine totalement de son propos. Et ça, je trouve intéressant parce que ça renouvelle un peu le genre. Et il y a presque une approche presque politique dans la manière dont Megan Abbott fait ses bouquins, c'est-à-dire que ce sont toujours des femmes qui sont les personnages principaux et qui sont à l'opposé de ce qu'on retrouve d'habitude dans les personnages féminins dans le roman noir américain. Elle en avait fait une thèse d'ailleurs quand elle a fait des études de littérature sur la figure du blanc mâle américain dans le roman noir, et on sent que son propos à elle, indépendamment du cheerleader qui effectivement a laissé un peu froid dans le bouquin, c'est plutôt de jouer sur les personnages et la psychologie des personnages féminins dans le roman noir. Et là, je trouve, même si c'est pas abouti, même si c'est parfois un peu mal torché et vite, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie perversité, un vrai jeu malsain, une vraie tension sexuelle, érotique entre des personnages, quelque chose qui frôle la perversité, qu'en soi je trouve intéressant. Et qui
elle aurait dû rester sur cette ligne-là.
Voilà, comme tu disais, le début du bouquin parle là-dessus, et puis effectivement, ça se prend les pieds dans son tapis de saut et ça fonctionne plus très bien. Mais voilà, j'ai trouvé le roman séduisant dans cette idée qu'elle fait du vrai roman noir avec une prise de position presque politique qui est « il n'y a pas d'homme dans mes romans ».
Ouais, mais c'est clairement intéressant. Hein. Sur papier, c'est intéressant. Mais sur papier, une fois que c'est couché, vraiment sur papier, ça ne l'est pas.
Est-ce que c'est le bouquin de l'année ? Non, pas du tout. Mais disons que ça a alimenté l'intérêt pour l'écrivain en ayant lu son précédent.
Voilà. D'accord. Alors, Philippe, tu l'as lu ?
Oui, je l'ai lu. Oui. Et par rapport à la langue employée dans le bouquin, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'elle a quelques... Je vais exagérer un peu, mais quelques fulgurances. Elle a des expressions comme ça, parfois assez drôles, comme par exemple, il est aussi ennuyeux qu'une planche de bois. Je trouve ça assez sympa. ou une autre, voilà, c'est ça. Le ventre aussi plat qu'une personne nourrie au goudron. Je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est sympathique. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de pénétrer dans un milieu où se croisent finalement le pouvoir, le sport et surtout l'esprit de compétition américain. Et on arrive assez vite à une situation où les gens sont dans compétition de névrose comme ça. J'ai l'impression que c'est à qui aura la plus grosse névrose, la plus délirante, la plus colorée qui gagnera. Et donc on est dans cet univers adolescent qui est intéressant en soi, puisque c'est une image de l'Amérique qui peut certainement être transposée dans le monde de la musique, dans le monde du cinéma. Là, c'est le sport. Mais je suis aussi un peu frustré par le fait qu'on aboutit à une espèce de mutation vers un polar qui n'est pas extrêmement crédible. Et donc, on reste sur sa fin, quoi. Je trouve qu'il y avait peut-être d'autres choses à écrire sur la compétition entre adolescents.
Il aurait dû prendre un an en plus et davantage soigner le travail. C'est un peu ça. C'est
il me semble.
Le conseil qu'on peut lui donner. Pour
on a appris 2 ou 3 choses.
Mégane. Mégane. moi, je ne peux pas le coter parce que je ne l'ai pas terminé. Donc, voilà. Il paraît que c'est plus honnête. Philippe.
Moi, je dirais 6.
Olivier.
Allez, pour rester dans le côté un peu plus enthousiaste que vous, je vais dire 7, mais c'est un 7 gentil.
Non, oui, c'est très gentil.
6 aussi, pas plus.
Ok. Alors, on va terminer l'année carrément avec le tour de notre dernier coup de cœur. Je commence par le mien, comme toujours. C'est un disque de Folktronica, c'est celui de The Feather. C'est liégeois. C'est le side project du chanteur et guitariste Dansan Thomas Médard. Il est donc soutenu par le label Jaune Orange. L'album s'appelle Invisible. Il est tout doux, comme un petit souffle d'été indien avant l'hiver, plein de feuilles mortes, de bois qui craquent, mélancolique, léger. C'est un joli petit refuge où laisser passer la morsure du froid. Moi, il me fait beaucoup de bien, ce disque. The Feather sera en concert au mois de janvier à Luxembourg et à Verviers. Il était la semaine dernière à Gand. Je crois que c'est à aller voir. Qui veut?
Oui, The Feather, j'aime bien aussi.
Tu aimes bien?
Oui, ouais, j'aime bien.
Ah oui, c'est chouette.
Ce disque. Non, moi, juste plutôt un clin d'œil que vraiment un coup de cœur. Je lisais aujourd'hui dans New Musical Express que, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, vous devriez, un vieux tube de 1973 qui s'appelle Merry Christmas Everybody du groupe anglais Slate. Alors, ce n'était pas ça le coup de cœur. C'est le fait que...
c'est ce Noël. Disque... Ton coup de cœur, c'est Noël.
Voilà, c'est ça. Ça revient périodiquement, etc. Mais que, en fait, l'auteur du disque, donc qui est le chanteur du groupe de Slate, qui s'appelle Noddy Holder, a gagné à peu près 1 million de livres en droit d'auteur, et que ça fait de lui en fait le plus riche auteur de Noël de l'Angleterre actuelle.
Ah bon?
Je trouvais ça quand même assez sympathique.
Oh bah quoi, voilà.
Il faut jamais désespérer, ringard un jour et
on en apprend des choses, ouais, avec toi Philippe. Quel plaisir. Olivier?
Oui, moi j'ai deux petits coups de cœur, même deux gros en fait, un BD.
Deux carrément.
Carrément, je suis comme ça, c'est la fin de l'année.
Ah, je reconnais la couverture.
Alors le premier, la revue dessinée, mm-hmm. Le deuxième numéro d'un nouveau trimestriel dont le principe est simple, c'est de l'actualité du reportage uniquement en bande dessinée. Donc c'est vraiment la BD du réel et la bible de la BD réelle d'aujourd'hui. Et vraiment, personnellement, je trouve ça remarquable. Il y a beaucoup de graphismes différents, beaucoup d'auteurs. Il y a des sujets sur ici le trafic d'armes, sur la Libye, sur le nucléaire, sur une enquête sur le gal de schiste.
Oui, c'est du lourd. Hein, oui.
C'est du lourd, mais c'est aussi du léger. C'est ça l'intérêt justement d'une revue comme ça, c'est que j'ai repris une leçon d'économie en 15 pages, de manière très légère. Voilà, c'est pas du tout lourd. C'est justement l'intérêt de ce genre de choses, c'est qu'on s'intéresse à des sujets auxquels aujourd'hui on ne s'intéresserait plus si on nous le vend dans un pavé de 5000 signes ou dans le Monde Diplo. Voilà, c'est plus simple à lire et c'est plus beau. Et vraiment, c'est à conseiller, je trouve ça remarquable. Et alors, le deuxième coup de cœur, qui date de ce matin, j'étais très content. Les deux fils de pute sont de retour. Je ne sais pas si vous connaissez Les deux fils de pute.
Toi et ton frère.
J'ai des frères. Donc, c'est La Puta Madre, Smimouz et Suzy Wan. Donc, c'est vraiment le rap bruxellois, le RAB crew, comme on le fait depuis 20 ans, qui font des groupes tout à fait marginaux, complètement underground. Là, ils ont sorti un clip ce matin. Je reprends mes notes parce que c'est de la poésie urbaine. Un morceau qui s'appelle Fais pas le con, qui est une reprise de Plastic Bertrand, qui est magnifique. Et le premier morceau qui s'appelait Golden Shower. Je vous laisse
penser.
Si vous voulez un petit extrait pour vous donner le plaisir de la langue. Attendez, je cherche le bon. Voilà. Tu te pisses dessus quand je te regarde de travers. Tu chies dans ton froc si je te dis de te taire. Voilà.
D'accord.
Et c'est magnifique. Et moi, j'adore Les deux fils de pute. Il faut écouter parce que, indépendamment des textes qui sont évidemment dans beaucoup c'est vraiment de l'autodérision, c'est du hip-hop bruxellois avec un son derrière qui est parfait. Pour ceux qui ont aimé 9 mm, Parabellum, une balle dans la tête, ce genre de choses, on retrouve tout à fait ce son-là.
Encore du vintage.
C'est du vintage, mais ce sont eux qui le font. Donc voilà.
Ouais.
Ce ne sont pas les petits jeunes de 15 ans qui font du RAB. Voilà.
Enfin, le chef.
Eh bien, moi, c'est une BD, c'est Annie Sullivan et Helen Keller, d'un jeune auteur américain.
Helen Keller, c'est la sourde muette.
Exactement.
Ouais, tout à fait.
Donc, c'est inspiré de faits réels.
Tu te souviens
du
film.
Un petit peu peur, parce qu'on sait bien que les histoires comme celle-là, elles peuvent tirer des larmes et tourner en bouillie. Mais c'est un jeune auteur indé américain qui s'est saisi de cette histoire pour raconter dans son style graphique vraiment pertinent et assez bluffant. Il nous raconte l'histoire de la rencontre donc entre cette petite fille qui est sourde et aveugle.
Oui, c'est ça, sourde et aveugle.
Voilà.
Oui.
Donc muette, bien qu'elle l'apprendra par la suite. Et sa prescriptrice, qui est donc Annie Sullivan, elle-même malvoyante. Et donc ça se passe à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, en Alabama, qui n'est pas une région a priori connue pour sa tolérance, et surtout à l'époque où l'enseignement était encore un petit peu hasardeux par rapport à ces cas peu ordinaires. Et donc c'est la relation au début très difficile entre cette petite fille qui est complètement mutique, qui ne communique pas avec l'extérieur, et sa prescriptrice qui elle est très têtue et qui comprend les souffrances de cette petite fille pour être passée un petit peu par des étapes aussi douloureuses, puisqu'elle est même orpheline, elle a été dans un asile, etc. Et donc, c'est une histoire d'amitié, parce que ça va déboucher sur une histoire d'amitié, même si ce n'est pas le propos de l'album. L'album, c'est vraiment nous montrer comment ces deux êtres vont finir par communiquer, comment elle va transmettre à cette jeune fille, eh bien, la langue, à travers le langage des signes qu'elle lui transmet dans la paume de la main.
Et oui, c'est vrai, elle lui parle en la touchant.
Et c'est très dur, c'est basé sur la répétition permanente.
Voilà, et donc c'est très dur graphiquement, c'est super, parce qu'on est placé dans la tête de la petite fille quand elle est dans son, entre guillemets, délire, son autisme, et il arrive à transmettre les sensations de la petite fille de manière assez étourdissante. Et voilà, c'est vraiment, je trouve, c'est un coup de cœur, je trouve qu'il a réussi à se réapproprier cette histoire et à la montrer dans ses bons et ses côtés les plus douloureux et difficiles aussi.
Parce que moi, l'histoire d'Hélène Keller, je l'ai lue quand j'étais toute petite. Est-ce qu'on peut offrir cette BD à un enfant, un adolescent, ou c'est plutôt pour adultes?
Non, c'est plutôt pour adultes.
Plutôt ado-adulte,
oui,
pour
oui,
moi.
Oui, okay. C'est le.
Ça, c'est dur,
de...
hein, ce qu'elle apprend, c'est basiquement, est très, très violent, c'est quand même.
Il
une
faut
enfant,
revenir, la petite se rebelle, enfin, elle doit y revenir, elle est au bord de craquer. En plus, c'était dans un environnement ultra conservateur, donc ses techniques expérimentales ne plaisent pas nécessairement. Voilà, parce qu'elle essaye d'intégrer, de lui apprendre la discipline, et la petite qui n'a jamais eu de discipline fait ce qu'elle veut, elle balance sa bouffe et tout. Voilà, donc c'est assez dur, c'est âpre, mais. Ça rend le succès de l'opération d'autant plus réjouissant.
Bon, formidable.
Donc je rappelle Annie Sullivan et Hélène Keller de Joseph Lambert, c'est chez Cambourakis et ça et là qui se sont associés pour l'occasion.
Ben voilà, c'est déjà fini.
C'est fini pour cette année.
Voilà, c'est pour cette année. Bon, rendez-vous en 2014 alors.
Peut-être.
Bah, la bonne année alors.
Ah, une excellente année. Et surtout la santé. Hein,
santé, bonheur, santé, bonne humeur.
Merci de nous écouter. N'oubliez pas de nous lire aussi toutes les semaines dans Focus avec le Vifle Express. N'oubliez pas de nous aimer sur Facebook. N'oubliez rien en fait. Salut tout le monde.
Salut.
Salut Myriam.
À très vite. Ciao.